Denise Suarez, la veuve noire du Brésil. Denise leur a tout de même fourni la nouvelle adresse de leur fils, ce qui ajoute du concret dans son histoire et permet de prolonger son mensonge. Jusqu'à ce que la vérité éclate. Le jeune Français n'habite pas à cette adresse. Il n'y a d'ailleurs jamais habité. Une voisine les informe qu'elle a bien vu Denise Suarez une fois. Elle était seule. Les parents de Sébastien prennent la direction du village de pêcheurs de Cabussou, lieu de résidence de la famille de Denise. Ils y rencontrent la tante et la mère. Toutes deux confirment avoir rencontré Sébastien au mois d'août. Madame Suarez ne comprend pas du tout pourquoi ces deux personnes cherchent un fils qui est déjà rentré en France et qui travaille dans sa boutique de fleurs avec sa fille. Du moins, c'est ce que lui a raconté Denise. Il n'y a aucune raison pour qu'elle mente. Les Bruns repartent du village, la mine déconfite. Ils ne veulent pas songer au pire. Jusqu'à la dernière minute, ils sont persuadés qu'ils vont revoir leur fils vivant, au point de le confondre avec un touriste lors de leur dernière soirée dans un restaurant. Aussitôt après leur retour en France, le 13 avril 2005, les parents de Sébastien se rendent au commissariat de police de Grenoble pour signaler la disparition très inquiétante de leur fils. L'enquête démarre lentement. Sébastien Brun est un jeune homme majeur. Les policiers estiment qu'il a parfaitement le droit de refaire sa vie sans prévenir ses proches. De plus, ils remettent en doute les inquiétudes du couple. Après tout, ses parents ont mis 8 mois pour signaler sa disparition. Les parents de Sébastien ne s'avouent pas vaincus. Ils mènent une enquête dans les papiers personnels de leur fils. Ils retournent au commissariat avec de nouvelles preuves, des transferts bancaires réalisés de manière illégale en falsifiant la signature de Sébastien. Les 70 000 euros de ses différents comptes bancaires ont tous été vidés par sa femme. Elle a également signé de fausses procurations pour clôturer 2 contrats d'assurance vie et toucher 30 000 euros. En utilisant de faux documents, elle a vendu le 4x4 de son compagnon et résilié le bail de leur appartement. Deux mois plus tard, la Brésilienne rend visite à sa mère pour récupérer son enfant qu'elle lui a confié. Lorsqu'elle apprend qu'elle est accusée de vol, elle contacte la police à plusieurs reprises et dit vouloir rétablir la vérité. En juin 2005, Denise se présente au commissariat, sûre d'elle, et explique aux policiers que ce sont les beaux-parents qui mentent. Elle affirme que Sébastien Brun s'est installé au Brésil et que Marie-Thérèse et Bernard sont parfaitement au courant. Denise montre à la police la même vidéo de vacances qu'elle a montrée aux parents et aux amis de Sébastien. Elle déclare également que son mari avait l'intention de se retirer au Brésil en raison de problèmes en France, notamment des activités frauduleuses, un trafic de cartes bancaires et un blanchiment d'argent. Elle raconte également que Sébastien était victime de rackets, avec de grosses sommes versées chaque mois à des inconnus. Ce ne sont pas de simples histoires, puisqu'elle a apporté des preuves. Elle présente un carnet de comptes au nom de Sébastien, où sont inscrites des sommes d'argent, suivies de termes comme « black » ou « dettes extérieures ». Selon elle, les parents seraient même au courant. Elle pense qu'ils ont inventé toute cette histoire pour lui enlever la garde de son fils. Devant les policiers, comme devant sa belle famille, elle refait son jeu d'actrice. Elle pleure beaucoup, se fait passer pour une victime. Mise devant le fait accompli, elle reconnaît avoir commis plusieurs fraudes pour prendre l'argent de son mari, dans l'unique but de survivre. Depuis son départ au Brésil, elle dit que Sébastien l'a licenciée et qu'elle se retrouve sans le sou. Une situation similaire qu'elle aurait vécue avec son ex-mari, qui lui a laissé une petite fille à charge. Les explications de Denise Suarez sonnent vraies. Toutefois, Marie Lormas, la juge d'instruction en charge de cette affaire de fraude, veut vérifier toutes ces allégations. Et notamment 2 éléments qui vont prouver la mauvaise foi de Denise. Les appels réguliers entre août 2004 et mars 2005 et le règlement des prétendus créanciers. L'opérateur téléphonique de Denise ne révèle aucun appel à Sébastien durant cette période. Les relevés de compte du fleuriste ne démontrent aucun retrait d'argent important. L'enquête débute en interrogeant l'entourage proche de Sébastien. Ses amis parlent de son projet d'ouvrir un nouveau commerce à Grenoble, un kiosque à fleurs. Il souligne que Sébastien était très investi dans ce projet et qu'il ne l'aurait pas abandonné volontairement. Le banquier confirme que ce projet était bien en cours, avec un rendez-vous prévu en septembre. Il a été très surpris de ne pas voir Sébastien honorer ce rendez-vous. Ses amis laissent entendre que le jeune homme avait un caractère instable, mais pas au point d'abandonner ses engagements. Sébastien n'était pas, selon eux, dans un état normal, lorsqu'il a parlé face à l'écran de rester au Brésil. Une autre phrase prononcée par le jeune homme fait tilt. Sébastien dit ouvertement à la caméra, et donc devant sa femme, qu'il l'a trompée des dizaines de fois avec des Brésiliennes. Tout le monde trouve louche que Denise en rigole, d'autant plus qu'elle a un caractère possessif. Les enquêteurs vont rapidement l'apprendre à travers plusieurs témoignages très équivoques. La juge d'instruction demande à ce que Denise Suarez soit placée sur écoute. Cependant, elle ne laisse rien transparaître de suspect au fil de ses conversations avec ses multiples interlocuteurs. Elle ne mentionne jamais le nom de Sébastien. Pour une femme qui a été trompée, abandonnée et laissée sans ressources financières, elle semble prendre la situation trop à la légère. Les enquêteurs découvrent que Denise a eu un comportement violent envers des femmes qu'elle considère comme des rivales. Sébastien avait l'habitude de se rendre à des soirées en compagnie d'autres femmes, des amis, ce qui alimentait la jalousie croissante de Denise et la poussait à commettre des actes illégaux et violents. Elle avait pris l'habitude de menacer au téléphone celles qu'elle pensait être les maîtresses de son mari, ou les intimider en se rendant en bas de leur immeuble. Un jour, elle insulte une amie, également d'origine brésilienne, pour avoir été seule avec Sébastien dans une boulangerie. Le pire reste à venir. Denise semble avoir une propension à droguer des personnes à leur insu, à commencer par Sébastien. Un jour de juillet 2003, l'employé du fleuriste remarque que son patron ne va pas bien du tout. Il semble dans un état second et affirme que sa femme l'a drogué la veille pour l'empêcher de sortir. Un acte qu'elle va répéter 2 ans plus tard sur un autre homme. Depuis son retour du Brésil et la disparition de Sébastien, Denise fréquente un certain Steve. Cet homme explique lors de son audition par les enquêteurs qu'après plusieurs mois de relation, il ressent un malaise en la présence de Denise. Il ne supporte plus son caractère possessif. En juin 2005, il lui annonce par téléphone qu'il souhaite la quitter. Insistant pour qu'ils aient une conversation chez elle, elle l'invite à déjeuner. Le moment devait être convivial. En réalité, il aurait pu lui être fatal. Elle prépare 2 assiettes de salade en mettant la sauce sur l'une d'elles avant de rincer le bol pour en préparer une nouvelle. Il commence à manger, puis soudain, c'est le trou noir. Il se réveille à l'hôpital 2 jours plus tard dans un état comateux. L'analyse toxicologique réalisée par l'hôpital avait révélé la présence importante d'un anxiolytique, le Lexomil, dans son organisme. À trop forte dose, celui-ci peut s'avérer mortel. Les enquêteurs craignent que le même sort ait été réservé à Sébastien Brun. En septembre 2006, Denise Suarez est placée en garde à vue. Confrontée aux différents témoignages et à ses propres mensonges, la Brésilienne continue à faire ce qu'elle sait faire de mieux. Mentir, nier et rebondir sur chaque preuve accablante. Elle explique que l'empoisonnement de Steve n'était pas intentionnel, mais accidentel. À cette époque, elle prenait 3 comprimés de Lexomil qu'elle écrasait dans la salade. Steve a consommé par erreur une assiette qui ne lui était pas destinée. Ce mensonge est rapidement démonté par l'expertise toxicologique qui démontre un dosage bien au-delà de la limite autorisée. Denise finit par reconnaître le délit. Les questions se concentrent rapidement sur le déroulé de ses vacances avec Sébastien. Elle dit qu'ils ont joué aux touristes pendant 2 semaines, rendant visite 2 fois à sa famille dans le village de Cabuçu. En revanche, contrairement aux allégations de sa mère, elle ne s'est pas rendue avec Sébastien chez elle avant son retour en France. Dans cette toute nouvelle histoire, son mari aurait pris sa voiture de location et quitté le village le 17 août 2004 pour rejoindre Salvador. Elle avoue que ses mensonges proférés à la famille Brun visaient à couvrir, selon elle, les prétendues escroqueries de Sébastien. Les enquêteurs et la juge d'instruction ne sont pas dupes. Denise Suarez est mise en examen et écrouée pour escroquerie et administration de substances nuisibles. La juge Mass voudrait également la mettre en examen pour homicide. Tout concorde avec la possibilité d'un meurtre. Mais conformément à la loi française, la juge ne peut pas le faire tant qu'il n'y a pas un élément décisif et déterminant. Par exemple, la découverte du corps de Sébastien.